France Culture.
Les nuits de France Culture.
La chasse aux sorcières n'est pas une première dans l'histoire de l'humanité. Bien au contraire, la psychose qui se crée autour des sorcières et de leurs sabbats faisait partie dès sa naissance de théories du complot bien plus anciennes et plus importantes. Comme l'explique l'historien italien Carlo Ginzburg dans ce cinquième et dernier épisode d'une série de Lysandriès pour les chemins de la connaissance, consacrée au sabbat des sorcières, le complot qui précède celui des sorcières est encore plus invraisemblable. Certains racontent, et ce sur plusieurs siècles, qu'il y aurait un complot entre les juifs et les lépreux, soutenu par les rois musulmans, pour empoisonner les fontaines et les rivières et prendre le pouvoir. Les sorcières se seraient alors jointes à ce complot, dont l'actualisation réelle serait entre autres les actes de sorcellerie commis par ses disciples du diable. Le sabbat des sorcières serait donc une communion d'une secte parmi d'autres, allant jusqu'à emprunter le terme « sabbat » à la religion juive. Une émission diffusée pour la première fois le 6 novembre 1992 qui nous rappelle que la machine infernale du complot et des fameuses fake news ne sont pas les symptômes d'une maladie exclusivement contemporaine.
Pierre demanda à l'une des sorcières capturées de quelle manière elle mangeait les enfants. Elle répondit « La manière est celle-ci. Nous faisons le guet, surtout autour des enfants non baptisés ou autour des enfants baptisés quand ils ne sont pas protégés par le signe de la croix et des prières. Avec nos charmes, nous les tuons dans leur berceau, même quand ils dorment à côté de leurs parents. Ceux-ci, après cela, pensent les avoir étouffés ou qu'ils sont morts autrement, de mort naturelle. Puis nous les enlevons secrètement de leur tombeau, nous les mettons à cuire dans un chaudron jusqu'à ce que toute la chair se détache des os et devienne bien liquide. De l'élément le plus solide, nous faisons un onguent qui nous sert pour nos artifices, nos plaisirs et nos transports. Avec l'élément plus liquide, nous remplissons un récipient comme une outre. Celui qui en boira, en s'accompagnant de quelques autres cérémonies, acquiert immédiatement toute connaissance et devient maître de notre secte.
On a vu que le sabbat s'intégrait dans un système de pensée théologique et politique où le diable et le principe du mal jouaient un rôle essentiel. On a vu aussi que certains des rites décrits dans les assemblées nocturnes, le déguisement animal et les danses au son d'une musique discordante, par exemple, pouvaient être rapprochés de pratiques folkloriques comme le carnaval. Or, Carlo Ginzburg, dans votre livre « Le sabbat des sorcières » qui vient de paraître chez Gallimard, vous évoquez précisément le caractère hybride du sabbat, sorte de mixte culturel qui serait à la fois le produit des fantasmes des inquisiteurs et d'une très ancienne culture paysanne. Rappelons pour les auditeurs que vous êtes historien et que vous êtes également l'auteur notamment du Fromage et les Vers qui est apparu chez Flammarion en 1980 et des Batailles nocturnes où il était déjà question de sorcellerie dans le Frioul. Ici, votre point de vue est, je crois, historique et anthropologique, puisque vous étudiez d'abord la manière dont s'élabore l'idée d'un complot de lépreux, de juifs et de sorciers au XIIIe et XIVe siècle. Ensuite, vous analysez le noyau folklorique du sabbat, avant d'évoquer dans la dernière partie de votre livre les grands mouvements migratoires pouvant expliquer la diffusion sur un très large territoire de telles croyances. Mais j'aimerais vous poser une première question à propos de ce fameux complot que vous évoquez dans la première partie de votre livre, complot lié en particulier à des accusations d'anthropologie rituelle.
Anthropophagie rituelle, je pense à l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire que la première partie de mon livre, qui est tout à fait historique, est axée sur... l'image du sabbat qui était répandue parmi les inquisiteurs et les juges laïcs. C'est-à-dire que j'ai essayé de déchiffrer comment cette image est surgie, elle a pris forme. Et alors j'ai commencé à analyser un événement qui est très connu, mais qui n'a jamais été étudié dans cette perspective, c'est-à-dire la perspective du sabbat. Les prétendus complots de juifs, de l'épreuve de juifs et des rois musulmans qui a été découvert en France en 1321. Et on disait, il y a des textes, soit officiels, soit des chroniques, etc., qui nous parlent de ce complot, de la façon dans laquelle soit les lépreux, soit les juifs, soit les lépreux et les juifs ensemble, soudés par les rois musulmans, avaient déposé des poisons dans les rivières, dans les fontaines, dans les sources. Et alors ma thèse, ce que j'ai cru découvrir, c'est que ce prétendu complot, qui était tout à fait imaginaire, a relancé en fait deux complots véritables, c'est-à-dire un complot contre le lépreux, un complot contre les juifs. C'est-à-dire que on a renfermé les lépreux, il y a eu un grand renfermement de lépreux.
Il y a même eu un édit royal de Philippe V en 1321 pour les obligeant finalement à être complètement exclus du reste de la société.
Oui. Un texte vraiment terrible et cruel. Et il y a eu aussi complot contre les juifs, c'est-à-dire que les juifs ont été chassés. Je dis complot qui est un mot lourd d'implication, parce que j'ai cru pouvoir démontrer que les résultats de cette série des violences contre les lépreux et les juifs avaient été déjà prévus à l'avance. Et il y a une série d'événements où on voit d'un côté les foules qui tuent les juifs, qui tuent les lépreux. Et il y a aussi intervention des autorités soit religieuses, soit laïques. Alors, ce complot, c'est pour moi le premier chaînon d'une chaîne qui a continué au temps à l'époque de la Grande Peste, de la Peste Noire, 1348-49, où les responsables ont été cette fois pour soit les juges, soit les foules déchaînées, les juifs. C'est-à-dire qu'il y a eu une série de violences et aussi des procès contre les juifs en tant que responsables, prétendus responsables de la peste. Et il y a aussi un troisième chaînon, c'est-à-dire l'émergence du sabbat. Alors, je pense que...
Le troisième chaînon qui donc date plutôt de la fin du XIIIe, début XIVe siècle.
Oui, et je pense qu'on peut voir que cette série d'événements est liée soit du point de vue géographique, parce qu'il y a eu... On a chassé les juifs de la France. Il y a eu émigration des juifs vers le Dauphiné, vers les Alpes, etc. Et là où on trouve soit les juifs en tant que responsables de la peste, soit après quelques décennies, on trouve une secte nouvelle, les sorcières. Et justement, j'ai trouvé un texte où on parle de juifs et sorciers ensemble en tant que responsables d'une secte nouvelle contre le christianisme.
Oui, mais alors justement, ce qui pourrait relier finalement ces trois vagues de répression, une répression contre les lépreux et parfois aussi les juifs, plutôt dans le sud, dans le sud-ouest de la France, une seconde vague vers 1348, plutôt dirigée contre les juifs, et puis cette troisième vague de persécution, fin 15e, début 16e siècle, avec les premiers textes des inquisiteurs, est-ce que le point commun entre ces trois vagues n'est pas justement l'idée de l'existence d'une secte secrète qui aurait pour mission, secrète évidemment, clandestine, de détruire la chrétienté ?
Oui, je crois que ce que j'ai essayé de reconstituer, c'est un peu l'archéologie de l'idée des cinquième colonnes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a, il y a des groupes à l'intérieur de la société qui menacent la société elle-même. Alors, ces groupes marginaux comme les lépreux, les juifs et après les sorciers, ont été justement ça, c'est-à-dire qu'on les a regardés en tant que une menace, et l'idée des complots est tout à fait centrale, je crois, pour comprendre comment on est passé de ces figures de sorciers ou sorcières isolées à l'idée d'une secte.
Bon, alors je voudrais passer au second point de votre livre, puisque, je le rappelais dans l'introduction, votre point de vue est à la fois historique et, vous dites aussi, morphologique. Et un aspect essentiel de l'apport de votre livre, je crois, c'est toute l'étude que vous faites du noyau folklorique du sabbat et le fait que vous vous séparez relativement et même profondément des historiens spécialisés dans la sorcellerie, dans la mesure où, contrairement à eux qui se sont intéressés c'est essentiellement aux conditions de la persécution. Vous l'avez fait en parlant du complot des sorcières et des sorciers. Mais donc, ils sont intéressés aux conditions de la persécution et aux textes des démonologues. Vous essayez, vous, de retrouver une parole enfouie, des traces, quelquefois d'ailleurs difficiles à examiner. Il y a un aspect d'enquête policière dans votre texte, dans votre livre. Vous essayez de redonner la parole aux accusés eux-mêmes et vous essayez d'établir une sorte de cohérence dans le discours, dans leur discours avec l'émergence de traces presque oubliées ou difficiles à saisir d'éléments de folklore et d'éléments de culture paysanne. Et vous évoquez en particulier le culte d'une déesse nocturne qui expliquerait cet envol au sabbat, qui serait une des clés pour expliquer l'envol au sabbat. Mais on va entendre à ce sujet un passage du Marteau des sorcières.
On ne peut admettre que certaines femmes infâmes, perverties par Satan et séduites par les illusions et les fantasmes du diable, croient et disent s'en aller la nuit avec Diane, déesse des païens, ou Hérodiade et une multitude innombrable de femmes, chevauchant certaines bêtes, parcourant de larges espaces dans le silence de la nuit et obéissant à cette déesse comme à leur maîtresse. Aussi les prêtres de Dieu doivent prêcher au peuple pour qu'ils sachent que tout cela est complètement faux, et que pareils fantasmes dans les esprits des fidèles proviennent non de l'esprit de Dieu, mais de l'esprit mauvais. Attendu que Satan lui-même prend diverses figures et ressemblances, et trompant par des rêves l'âme qu'il tient captive, l'emmène vers toutes les déviations.
Canon Episcopi, c'est-à-dire un texte qui a été cité pour la première fois, autant que nous savons, au Xe siècle, et qui a joué un grand rôle dans la persécution de la sorcellerie. Parce que dans ce texte, on parle de femmes qui tombent en extase, qui croient de s'envoler avec Diane, avec les cortèges de Diane pendant la nuit, mais en même temps, on dit qu'il s'agit d'une imagination, il n'y a pas de réalité. Or, pourquoi Diane ? Pourquoi Hérodiade ? J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces noms, parce que ces noms, surtout le nom de Diane, est une traduction, c'est-à-dire que c'était les canonistes, les inquisiteurs qui traduisaient, qui croyaient reconnaître la forme de Diane derrière de divinités locales, des divinités nocturnes, des divinités liées à l'extase. Et alors j'ai trouvé des textes parfois vraiment extraordinaires où des femmes, parfois des vieilles femmes, des montagnards, des paysannes, etc., nous parle de leur vision. Comment elles ont vu, elles ont eu des visions, ont vu se manifester une déesse qui a parfois des traits animalesques, de traits bestiaux, mais qui est aussi une déesse liée à l'abondance et à la mort. Il y a les deux éléments.
Oui, parce que finalement, cette déesse nocturne est liée aussi à d'autres croyances comme la chasse sauvage, comme la Ménienquin, comme tout ce voyage des morts violentes, des morts sans sépulture, qui suivent une déesse finalement qui peut être considérée comme maléfique.
Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé d'analyser un corpus de documents qui se rattache à ce que j'appellerais des professionnels de l'extase. Et alors il y a deux femmes qui tombent en extase et qui dans leur extase font partie, s'envolent avec Diane, cette déesse nocturne, etc. De l'autre côté, il y a des hommes qui tombent en extase eux aussi pour s'en aller en esprit à se battre contre soit les sorciers soit les morts pour la fertilité. Alors il y a des éléments communs derrière ces deux spécialisations sexuelles, si vous voulez, c'est-à-dire que d'un côté de deux côtés il y a extase, il y a quelque chose qui se rattache aux métamorphoses animalesques, c'est-à-dire que l'esprit de ces gens, soit des femmes, soit des hommes, s'envole en tant qu'animal, ou parfois ces gens, ces professionnels de l'extase, s'envolent en esprit, mais à califourchon de certains animaux. Alors il y a ces rapports entre les animaux et c'est au-delà, parce que ce que j'ai cru trouver là vraiment, c'est, je crois, les noyaux mythiques les plus profonds derrière le stéréotype du sabbat, c'est les voyages dans les mondes des morts. Ces professionnels de l'extase, soit hommes, soit femmes, sont des gens qui, dans des dates données à travers leur extase, vont jusqu'au monde des morts pour y trouver la fertilité. Parfois ils volent les semailles, ils luttent contre les sorciers ou les morts et ils reviennent. Alors il y a ce thème qui a été déguisé, déformé dans les stéréotypes du sabbat, mais c'est un thème qui ne fait partie évidemment de la culture des juges, des inquisiteurs, qui n'est pas lié au complot évidemment, mais qui se rattache plutôt à des couches profondes d'une culture folklorique. Alors c'est
oui, mais alors moi j'aurais plusieurs questions à vous poser. D'abord, quelle est la relation entre rite de fertilité et monde des morts, première chose. Et puisque vous appelez les professionnels de l'extase, vous évoquez par exemple l'utilisation d'onguents, un état cataleptique particulier qui serait associé à certaines catégories de la population. Comment est-ce qu'on pourrait mieux présenter ces professionnels de l'extase?
Je crois que ces professionnels sont presque toujours marqués. C'est-à-dire qu'il y a parfois des marques physiques. Alors, par exemple, ce Benandanti du Frioul dont j'avais parlé dans mes batailles nocturnes. Qui sont les bons sorciers.
Contre les mauvais,
des gens qui se battent pour la fertilité des champs, etc. Ce sont des nez coiffés. Alors, j'ai trouvé que le fait d'être nez coiffé dans d'autres parties de l'Europe, par exemple dans le folklore slave, c'est un trait qui se rattache au loup-garou. C'est-à-dire que le loup-garou, c'est celui qui est né coiffé.
Né coiffé, c'est-à-dire qui est né avec la membrane amniotique sur le crâne, qui a cette membrane amniotique sur le crâne au moment de la naissance.
C'est ça. Et alors, cette convergence entre sorcier bénéfique et loup-garou peut paraître tout à fait étonnante, mais en fait, j'ai découvert que chez les loups-garous, il s'est passé quelque chose que est d'une certaine façon comparable à ce que s'est passé avec avec les sorciers et les sorcières, c'est-à-dire une déformation de certaines figures bénéfiques qui s'est battue pour la fertilité.
Oui, alors justement, à propos de l'extase, on est assez proche d'autres pratiques que vous évoquez dans votre livre, l'extase chamanique, par exemple, et c'est aussi une des dimensions du livre, et je crois qu'il faut le rappeler, de s'intéresser à un très large territoire, qui est le territoire eurasien, qui est le territoire européen et eurasien, puisque une partie des rites que vous décrivez et des croyances que vous décrivez pourraient très schématiquement se retrouver sur un territoire qui va de l'Écosse jusqu'aux steppes sibériennes. Alors, j'aurais une question justement à vous poser à ce sujet. N'y a-t-il pas un risque un petit peu de diffusionnisme dans l'énorme territoire sur lequel vous travaillez? Et puis, mon autre question concerne un mythe, enfin ou plutôt une constellation de mythes ou de fragments de mythes que vous évoquez à propos justement de cette diffusion eurasienne, qui est le rite du, ou le mythe plus exactement du monosandalisme.
Oui, c'est-à-dire que je crois que les deux problèmes sont liés. Et en fait, la troisième partie de mon livre a deux chapitres, l'un beaucoup plus court, qui s'appelle « Conjectures eurasiatiques », et le deuxième, qui est beaucoup plus long, c'est le plus long du livre, qui s'appelle « Eau et peau ». Alors, dans ce premier chapitre, j'essaie de voir si le dossier que j'avais reconstruit et qui n'était pas lié à une hypothèse historique pouvait être rattaché à une séquence historique, une transmission culturelle. Je montre que il y a eu des contacts entre les steppes de l'Asie centrale et l'Europe à travers les sites.
Oui, je vous interromps, oui. Mais vous dites même que le bâton des chamans lapons pourrait éventuellement être associé au balai des sorcières.
Oui, c'est-à-dire que cette convergence, peut-être plus qu'une convergence entre chamans et sorciers, a été l'hypothèse qui a guidé un peu ma recherche à partir de ce que j'avais trouvé en Frioul, c'est-à-dire avec les Benandanti. Ceci dit, à la fin de ce chapitre où je parle du rôle des sites en tant que liaison entre l'Asie et l'Europe, ce chapitre où je parle de cette transmission de croyances et des mythes dans les domaines eurasiens, je cite un texte de Lévi-Strauss qui me paraît capital. Un texte où Lévi-Strauss souligne que même si les constructions les plus audacieuses des diffusionnistes pourraient être prouvées, ce qui est rarement le cas, on ne pourrait pas expliquer dans cette façon la permanence, la persistance, disons, de mythes ou de rites. C'est-à-dire que on peut expliquer la diffusion à travers les contacts. Mais la persistance, c'est autre chose. Ça relève de notre genre d'explication. Marc Bloch avait dit quelque chose de semblable.
Mais alors, si on revenait sur le monosandalisme, qui pourrait être un bon exemple, justement.
Oui, alors j'ai essayé de montrer qu'il faut aller au-delà de la diffusion, c'est-à-dire que, ou si vous voulez, d'une explication diffusionniste, pour essayer de combiner une explication structurale et une explication historique. Alors, le dossier que j'avais assemblé, c'était évidemment énorme et on ne pouvait pas essayer de suivre cette approche pour le dossier dans sa globalité. Alors, j'ai choisi un détail, c'est-à-dire la boiterie. La boiterie, soit mythique, soit rituelle, les diables qui boitent. Et alors, j'ai assemblé un dossier qui est un dossier qui est d'abord structural, c'est-à-dire que c'est un dossier où on trouve des boiteux, de zéros mythiques boiteux ou avec des pieds enflés ou avec un seul soulier, les monosandales.
Oui, vous évoquez Édipe aux pieds transpercés, Hermès avec une seule sandale et même Cendrillon.
Et Cendrillon. Alors, justement, c'est à l'intérieur de ce dossier où on peut voir la parenté qui est, je crois, une parenté profonde entre Édipe et Cendrillon, par exemple. C'est-à-dire que j'essaie de montrer que derrière ces, ces anomalies de la déambulation, il y a un mythe, c'est-à-dire le mythe dont je parlais auparavant, c'est l'héros de la fable ou du mythe qui va au monde des morts et y revient avec une marque.
C'est-à-dire une sorte d'être en équilibre instable entre le monde des vivants et le monde des morts.
Des morts.
Les sorciers étant assemblés en leur synagogue, adorent en premier lieu Satan, qui apparaît là tantôt en forme d'un grand homme noir et tantôt en forme d'un bouc. Et pour lui faire plus grand hommage, il lui offre des chandelles qui rendent une flamme de couleur bleue et puis le baise aux parties honteuses derrière. Par après, ils dansent et font leur danse en rond, dos contre dos. Les boiteux y vont plus disposément que les autres au rapport de Claudia Jan Prost et de François Secrétin, car elle disait que les boiteux incitaient les autres à sauter et à danser. Or, ils dansent ainsi dos contre dos afin de n'être pas connus. Mais aujourd'hui, ils ont une autre invention au même effet, qui est de se masquer. Il y a encore des démons qui assistent à ces danses en forme de bouc ou de mouton.
Hell, you're even starting to smell like a nigger, too, boy.
He's seen your face. That ain't good. You don't want him seeing your face.
Oh, it don't make no difference no more.
Il nous reste peu de temps, Carlo Ginzburg, pour cette fin d'émission. Je voudrais juste citer une phrase qui m'a tout de même posé problème et qui se trouve dans l'introduction de votre livre. Vous dites ceci. « Il y a bien longtemps, je m'étais proposé de démontrer de manière expérimentale, d'un point de vue historique, l'inexistence de la nature humaine. Je me suis trouvé 25 ans plus tard soutenir une thèse exactement inverse. » Alors, est-ce que, au-delà du diffusionnisme dont vous vous êtes défendu, on ne voit pas être réintroduite une sorte de théorie des archétypes ? Comment éviter Jung et une sorte de permanence de la nature humaine ?
C'est difficile à...
Question traître.
Oui. Disons que j'ai rejeté la notion d'archétype posée par Jung et j'essaie de rattacher ces problèmes au corps. Justement, en parlant de déséquilibre dans la déambulation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une permanence dans l'histoire humaine qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire les corps. Les corps de notre espèce, qui n'a pas changé dans le temps historique. C'est-à-dire que je ne nie pas évidemment l'évolution, mais l'évolution c'est autre chose. C'est au-delà des temps historiques. Alors, ce qui m'a intéressé, mon problème, si vous voulez, c'est l'imbrication, les rapports difficiles entre ce qui est permanent, c'est-à-dire les corps, en tant qu'invariant, et l'histoire. C'est un peu ça. Et alors, c'est justement pour travailler dans cette direction que je travaillais un peu à la limite de l'histoire en tant que discipline, si vous voulez. C'est le rapport entre histoire et morphologie que j'ai essayé d'utiliser en tant que sonde pour reconstituer un dossier qui a été soit oublié, soit perdu.
Merci. Mais enfin, le corps ici, c'est tout de même un corps de croyance. Et la conclusion, peut-être, c'est que le sabbat n'existe pas en tant que rite, mais en tant que croyance. Je vous remercie donc. Je rappelle que Carlo Ginzburg vient de publier chez Gallimard Le sabbat des sorcières et qu'un colloque international se tient actuellement à l'École normale supérieure de Saint-Cloud sur le thème Le sabbat des sorciers en Europe, 15e-18e siècle.
C'était le 5e et dernier épisode d'une série de Lisandriès consacrée au sabbat des sorcières, pour les chemins de la connaissance, avec l'historien italien Carlo Ginzburg. Une émission diffusée pour la première fois le 6 novembre 1992.